Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Un culte œcuménique a été organisé à son mausolée en face du palais de la nation à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement. Nous suivrons dans ce journal le message du représentant de la communauté islamique du Congo. Une messe de paix et de justice célébrée à Beni au Nord Kivu par la délégation des évêques de l'Afrique centrale conduite par Monseigneur Marcel Madila qui a demandé aux fidèles d'être des artisans de paix. De son côté, l'évêque du diocèse de Butembo a décrit à ses hôtes la situation calamiteuse qui traverse la zone. Avant la fin de ce journal, nous recevrons Jean-Paul Lumbulumbu, député et provincial élu du territoire de Lubero. Il revient sur le retard qui s'observe dans le processus de cantonnement des ex-combattants volontaires à la reddition et au cantonnement dans les territoires de Beni, Nirangongo, Masisi et Lubero au Nord Kivu. Il est l'invité de votre journal. À 18h à Kinshasa, bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal de Radio Kapi que vous présente Pierrot et la Meji. Jean-Claude Siala assure la mise en onde. La RDC a commémoré ce samedi le 20e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Un culte œcuménique a été organisé à son mausolée en face du palais de la nation à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs messages ont été lus, parmi lesquels celui du représentant du culte musulman. Je vous propose un extrait du message de Moussa Kalema, secrétaire général de la communauté islamique au Congo, choisi par Julien Amouini.
Chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble avec amour, justice, humilité, courage et responsabilité pour consolider la paix et reconstruire notre cher et beau pays pour qu'enfin le merveille dont Dieu nous a comblés profite à chacun d'entre nous. Un Congo épris de justice sociale distributive, un Congo attrayant pour les investisseurs étrangers, bref, un Congo vivant pleinement sa vocation panafricaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs, pour le peuple congolais, nous prions Dieu afin qu'il puisse mettre dans le fond de nos cœurs la flamme qui ravive notre foi et illumine nos esprits. Singulièrement pour notre classe politique, nous prions Dieu afin qu'il daigne toucher leur cœur des hommes et femmes politiques pour que tous ensemble, ils deviennent les artisans de la paix, de la réconciliation nationale et du développement du pays. Nous invitons chaque Congolaise et chaque Congolais à faire de l'amour de la patrie et du sens des responsabilités leur devoir en toutes circonstances et de privilégier toujours l'intérêt général.
Dans la province de La Tchopo, un culte religieux a été célébré à la cathédrale de la communauté protestante Communauté Nation des Christ en Afrique ce samedi 16 juin en mémoire du feu président Laurent Désiré Kabila. C'est à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de son assassinat. Cette cérémonie religieuse a connu la participation des autorités politico-administratives locales avec à leur tête le gouverneur des provinces par intérim Maurice Abibusa Kapela. Rappelant le souvenir de l'illustre disparu, le vice-gouverneur a déclaré que Laurent Désiré Kabila est celui que le destin avait choisi comme le tombeur de la dictature du feu président Mobutu après 32 ans de règne sans partage. Après son accession à la magistrature suprême, Laurent Désiré Kabila a légué au peuple congolais son testament politique qui se résume en l'auto-prise en charge. En quoi consiste-t-elle et comment pérenniser cette philosophie politique? Maurice Abibusa Kapela l'explique au micro de Jacques Mukonkole.
L'autoprise en charge, c'est-à-dire les Congolais doivent d'abord compter sur ses propres efforts et considérer l'apport extérieur comme un appui. L'autoprise en charge, cela veut dire d'un côté la population a les droits et les obligations. Les droits d'accéder au bien-être, mais l'obligation de contribuer à ce bien-être. L'État vit des contributions de ses membres et c'est ce qu'on appelle les impôts, taxes et redevances. Ils doivent se conformer à cela, mais aussi exercer ce qu'on appelle le contrôle citoyen vis-à-vis de ceux-là qui auront à gérer cela et à assurer la gestion de la chose publique au niveau tant provincial que national. Et donc, nous demandons à la population de ne pas fléchir. Aujourd'hui, nous vivons dans l'insalubrité. Les gens ne savent même pas entretenir l'espace que l'État leur donne. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que les problèmes de développement du pays et de la province est une affaire de seuls dirigeants. Donc, chacun doit apporter sa contribution pour que le rêve qui se vit dans nos têtes devienne la réalité.
La célébration du 20e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'était samedi, et 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba demain dimanche. La population de Bounia affirme avoir gardé des bons souvenirs de ces deux personnalités qui ont travaillé pour le bien-être de la population. Certains habitants qui se sont confiés à Radio Kapi demandent à la jeunesse congolaise de ne pas faire de la politique pour s'enrichir, mais plutôt de suivre l'exemple de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ils se sont exprimés au micro de Charlie Omba.
Voilà, les deux personnalités sont des personnalités emblématiques du pays. Lumumba est mort sans construire une seule maison. Lumumba est mort sans avoir même son salaire du Premier ministre. Mais il a donné sa jeunesse et toute sa vie. Nous avons eu l'indépendance grâce aux efforts de ce monsieur-là qui avait besoin de l'épanouissement du peuple congolais. Moïse Kabila est venu avec la même philosophie. Nous devons nous prendre en charge. Et la leçon que nous devons tirer de ces gens-là, ce sont les gens qui se sont donnés pour le pays. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, les gens rentrent en politique pour s'enrichir. Ils n'y vont pas pour chercher le bien-être de la population. Ces là ont sacrifié leur vie pour chercher le bien-être de la population. C'est une grande leçon que vous, la jeunesse, vous devez suivre. Vous ne devez pas aller en politique pour vous enrichir. Vous devez aller en politique pour servir le pays.
Et toujours à l'occasion de ce 20e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les habitants de la ville de Bukavu se sont aussi exprimés sur ce qu'ils retiennent de son combat et de sa politique. On les écoute au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
À l'époque de Laurent Désiré Kabila, on s'est retrouvé dans de bonnes conditions qui sont différentes de celles d'aujourd'hui. En rapport avec l'éducation, et notamment le militaire aussi s'est retrouvé avec leurs soldes, au moins l'État parvenait à faire une caution à des hôpitaux, qu'ils soient privés ou qu'ils soient de l'État. Oui, cette époque, les parents ne souffraient pas beaucoup parce qu'il y avait au moins des activités que les parents exerçaient et ils parvenaient à gagner quelque chose.
Les étudiants étudiaient facilement, il n'y avait pas de moins impayés pour les enseignants, pour les fonctionnaires de l'État. Il y avait des routes bien construites. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vraiment, on ne sait plus, on ne voit plus dans quel pays on est aujourd'hui.
Le 16 janvier, tout le peuple congolais commémore un homme qui a lutté pour qu'il y ait changement dans ce pays, un homme qui a été animé d'une certaine détermination et d'une certaine volonté pour changer les choses dans notre pays. Un homme qui a accepté de se sacrifier après qu'il ait osé et qu'il ait réussi à déboulonner la dictature vieille de plus de 30 ans du maréchal Mobutu. Monsieur Laurent Désiré Kabila a ce mérite, comparaison n'est pas raison. Monsieur a commencé la lutte juste après la mort du Premier ministre Patrice Lumumba. Monsieur était parmi les militants du MNC, les grands combattants du MNC et qui ont été choqués par la disparition sauvage et brutale de Patrice Lumumba. Il a poursuivi la lutte et cette lutte l'anime encore au moment où le peuple congolais s'engage sur le combat de la dictature pour installer un état de droit dans ce pays. Il a donc gagné.
En tout cas, à l'époque-là, tout le monde avait même l'ambition de devenir militaire. Les militaires étaient très bien payés, très bien encadrés. Mais aujourd'hui, vous voyez, nos militaires ne ressemblent plus des militaires de la RDC.
Dans la province du Nord Kivu, après son arrivée dans la ville de Beni ce vendredi, Monseigneur Marcel Madila et sa suite ont célébré une messe de paix et de justice à Beni. Le prélat qu'il a présidé a demandé aux fidèles d'être des artisans de paix. C'était également l'occasion pour l'évêque du diocèse de Butembo de peindre à ses hôtes la situation calamiteuse que traverse la zone. Guylaine Kassassia pour le reportage.
Au cours de cette messe, Monseigneur Marcel Madila est revenu sur leur mission dans la zone qui n'est autre que de réconforter le peuple meurtri par la guerre. Pour lui, la guerre est la mère de toute misère et rien n'est plus précieux que la paix. C'est dans ce sens que ce pasteur a appelé les fidèles de Beni à être des éveilleurs de la paix à travers la prière. Prenant la parole, Mgr Sikouli Melchisedek, évêque du diocèse catholique de Butembo-Béni, a confié que cette visite arrive au point nommé dès lors que le peuple de l'Est de la RDC mène une vie de misère causée par la guerre.
Une insécurité récurrente marquée par des enlèvements, des kidnappings et des tueries sauvages d'au moins 6000 personnes. C'est dans ce contexte de crise que je vous accueille comme des messagers de l'évangile de la paix. Votre visite pastorale constitue un éminent geste de solidarité et une parole vivifiante de réconfort.
Après cette messe, la délégation des évêques s'est entretenue avec les conseils urbains de sécurité ainsi que la MONUSCO sur d'importantes questions de l'heure. Béni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Restons à Béni où le ministère public a requis hier vendredi 10 ans de servitude pénale principale contre les 8 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Loutia, jugés en procédure de flagrance par le tribunal militaire des garnisons de Béni. Et ces militants sont poursuivis pour violence à sentinelle, sabotage et destruction méchante pour avoir fait tomber les mâts du drapeau de la République et cassé quelques chaises dans les installations du commandement urbain de la police et du groupe mobile d'intervention au cours d'une manifestation le 19 décembre dernier. Les avocats des accusés qui disent que les faits ne sont pas établis ont plaidé pour l'acquittement. Martial Papimoukeba pour les détails.
Avant d'accorder la parole aux parties au procès, le tribunal, par une décision motivée, a rejeté la prévention des destructions méchantes retenues par le ministère public contre les prévenus. En outre, le tribunal a ordonné une descente au commandement urbain de la police du groupe mobile d'intervention afin de reconstituer les faits. Prenant la parole pour son réquisitoire, le ministère public a résumé les faits mis à charge des prévenus autour des deux préventions, violence à sentinelle et sabotage, avant de déclarer que les prévenus ont bel et bien commis les faits mis à leur charge. C'est ainsi qu'il a demandé au tribunal de condamner ces derniers à 10 ans de servitude pénale principale. Dans leur conclusion, les avocats des prévenus ont rejeté à bloc ce réquisitoire en indiquant que le ministère public n'a apporté aucune preuve de ces accusations. Ils ont, par conséquent, demandé au tribunal de dire non établi en fait comme en droit ces infractions pour doute et insuffisance des preuves et ainsi acquitter les membres de la Lucha. Le tribunal militaire des garnisons de Béni a pris la cause en délibéré pour rendre son jugement le mercredi 20 janvier 2021. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Les enfants reporters d'Elitouri sollicitent une assistance en faveur de plus de 200 000 enfants déplacés qui vivent dans des conditions déplorables à Bounia et dans le territoire de Djougou. Selon les constats faits par cette structure, plus de 500 enfants errent dans la ville de Bounia pour demander de l'argent pour la survie de leur famille. Son président Ghislain Atiaboli demande au gouvernement de voler au secours de ces enfants vulnérables. Il s'est exprimé au micro de Charlie Omba.
On a eu à constater que les situations ne s'améliorent pas et ça s'augmente encore du jour au jour. Aujourd'hui, il y a encore plus de 500 enfants qui sont dans des différentes rues de la ville de Bounia. Les enfants décidés de déplacer sont vraiment en train de souffrir. Donc, je vais vous dire aujourd'hui seulement à ville de Bounia et à territoire d'Ndjougou qu'on a eu à effectuer une descente récemment personnellement. Il y a plus de 200 000 enfants qui ont besoin d'assistance urgente parce que si le gouvernement ne fait rien, l'avenir de ces enfants-là, c'est détruites parce qu'on a toujours dit les enfants sur l'avenir de demain.
À l'Équateur, les exploitants artisanaux du bois viennent de prendre l'engagement d'opérer désormais dans la légalité. C'est le résultat d'une formation des 5 jours qui leur a été assurée en Bandaka par le réseau de peuples autochtones. Formation relative au projet visant leur contribution à l'exploitation légale et durable des concessions forestières communautaires dans les territoires des Bikoro et d'Ingende. Le point pour le Richard Malengela.
Plusieurs fois, des voix se sont élevées en vue de condamner l'exploitation artisanale du bois, première ressource de l'Équateur, car nombreux font la coupe à volonté, sans respect des normes ni paiement des taxes légales. Conséquence, il y a la destruction des écosystèmes forestiers, coulage des recettes publiques et paupérisation des communautés locales. Mais à la suite de cette formation sur l'exploitation légale et durable des concessions forestières, les exploitants artisanaux se sont engagés dans la voie de la légalité. Leur porte-parole, Fidel Boutela.
La résolution, c'est une attitude responsable. Donc, il faut que l'exploitant forestier sache qui ne peut pas exploiter sans pour autant qu'il ait des documents appropriés, sans pour autant qu'il ait, après exploitation, à payer des taxes qui donnent aussi à l'État les droits de récupérer ce qu'on peut récupérer, y compris les communautés.
Cet engagement a réjoui le ministre provincial intérimaire de l'Environnement, Jean-Gilles Momolanda, à la clôture de la formation ce samedi.
Nous avons apprécié le mea culpa des exploitants forestiers, tout en les invitant à une exploitation responsable et aussi à une fiscalité exemplaire pour que la population aussi se retrouve.
Mission accomplie, c'est réjouir le chef de projet, reste alors l'application. Ainsi, Raphaël Mboyo a recommandé aux participants de transmettre les connaissances acquises à leurs semblables. Bandaka, Paul Chormaningue, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors que la pression s'est accentuée sur la capitale Bangui, cette semaine, la Russie a informé les Nations Unies du départ d'un des éléments déployés depuis décembre 2020 en Centrafrique, selon un courrier adressé au comité des sanctions de l'ONU chargé de contrôler l'embargo en vigueur dans le pays. Et cela ne signifie pas la fin de la présence russe pour autant dans le pays. Et en Ouganda, le président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, au pouvoir depuis 1986, a été réélu dès le premier tour ce samedi 16 janvier pour un sixième mandat avec 58,64% des voix, a annoncé la commission électorale du pays. Le principal rival du président sortant, Bobi Wine, a obtenu 34,83% et la participation a été de 57,22%.
L'invité.
Un retard s'observe dans les processus de cantonnement des ex-combattants volontaires à la reddition et au cantonnement dans les territoires de Beni, Nirangongo, Masisi et Lubero au Nord Kivu. Quelle lecture les élus de ces territoires font-ils de cette situation et par quel type de mécanismes avancés dans ces processus? Et notre invité pour en parler, c'est Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial élu du territoire de Lubero, qui s'entretient avec Marc Maroufimbo.
Monsieur Jean-Paul Lumbulumbu, bonjour.
Oui, bonjour.
Toutes les barrières étaient mises en marche pour que les cantonnements puissent être effectifs des ex-combattants qui étaient déjà prêts, volontaires pour la reddition. Et du coup, tout commence à être bloqué, beaucoup de retard dans tout ce qui a été programmé. Comment vous, personnellement, vous faites la lecture de cette situation?
Bon, personnellement, je suis déçu que, à la suite de beaucoup d'éléments, notamment la maladie virus Ebola, qu'il y a des mesures qui sont prises dans le cadre de la santé publique, mais qui affectent beaucoup de programmes qui devraient être exécutés dans le cadre de la sécurité dans nos territoires, notamment la reddition des groupes armés. Mais je continue à penser que, au regard de la gravité des faits, notamment les exactions qui sont régulièrement commises par les groupes armés dans nos territoires, il y a quelques jours dans le sud du territoire de Lubero, c'était des affrontements entre des groupes armés qui ont occasionné des déplacements massifs des populations vers Buleusa, vers Kimaka, vers Miriki. Je pense qu'au regard de la gravité des faits, il est urgent que le président de la République, qui est le garant de ce processus, prenne des mesures pour que quand même certaines actions puissent commencer, parce qu'entre-temps, nos populations continuent à être la cible privilégiée des groupes armés. Cela empêche le développement de nos territoires. Si je prends le territoire de Lubero, par exemple, où la population est essentiellement de l'agriculture, la présence des groupes armés dans les champs empêche à nos parents, à nos frères et sœurs d'évacuer librement leurs activités champêtres. Cela affecte l'économie du territoire, l'économie de la province, et cela n'est pas sans répercussion sur le plan financier. Voilà pourquoi je pense qu'en dépit du fait qu'il y a la deuxième vague du coronavirus, il y a possibilité que le comité technique de lutte contre le Covid, ainsi que le ministère de la Défense, y compris le président de la République, ses services bien sûr, puissent examiner la possibilité d'amorcer les activités de cantonnement des groupes armés en dépit du fait qu'il y a la deuxième vague du coronavirus. Je pense que c'est possible.
Oui, mais en attendant que ces mécanismes soient mis en place, vous pensez comment on peut contourner cette difficulté? Parce que, bien sûr, Covid est là, mais aussi il y a déjà, comme vous venez de souligner, beaucoup de dangers qui se font enregistrer, notamment les déplacements massifs des populations suite aux attaques de ces groupes armés.
Je pense que pour contourner, il suffit de tenir compte de la misère d'abord que vit nos populations à la suite de la présence des groupes armés. Et dès lors qu'on peut mesurer l'ampleur négative de la présence des groupes armés, il est tout à fait urgent d'ailleurs de pouvoir imaginer ces mécanismes de contournement. Et moi, je crois que tout cela dépend d'abord de la volonté de l'État, mais également des services techniques, notamment le bureau de coordination de lutte contre le Covid, ainsi que d'autres services de la présidence. Si on veut empêcher que le Covid puisse affecter nos populations, mais entre-temps, les groupes armés sont en train d'affecter ces populations et il y a des morts causées par l'insécurité, autant qu'il y en a qui sont causés par le Covid.
Oui, pendant ces temps, quelles peuvent être les responsabilités des chefs locaux, parce que le processus n'est pas encore là. Même la population et les chefs locaux, quelles peuvent être leurs responsabilités en attendant que ce processus puisse démarrer?
Bon, je pense que la première responsabilité des chefs locaux réside d'abord dans la poursuite de la sensibilisation. Il en est de même des élus locaux que nous sommes. Nous allons en vacances parlementaires. Moi, déjà le lundi, je serai dans mon territoire à Lubero, dans le cadre de mes vacances parlementaires. Mon devoir sera essentiellement de continuer à sensibiliser les jeunes soldats des groupes armés qui ne puissent pas se décourager par le fait que le Covid vient mettre une sorte d'obstacle au processus du début de leur cantonnement. Je crois que nous avons le devoir de continuer à les sensibiliser pour qu'ils se préparent à ce processus qui est très très important. Mais je pense que la première responsabilité, c'est au niveau plutôt des institutions nationales qui doivent prendre la question à bras le corps, parce que moi je reste totalement convaincu qu'au regard de la gravité des faits à la suite de la présence de groupes armés, notamment des viols, des tueries, des déplacements massifs des populations, et avec tout ce que cela peut avoir sur le plan économique au niveau de la province, il est urgent que l'on puisse vraiment imaginer des mécanismes de contournement afin que le cantonnement commence en dépit du fait qu'il y a le Covid.
Monsieur Jean-Paul Mboulumbu, je rappelle que vous êtes le député élu du territoire de Lubero en province de Nord-Kivu. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Jean-Claude Siala. Richard Junior Kamunga était à la coordination sous la supervision de Julien Nyamouini. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur notre site internet www.radiokapi.net. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver à 19h pour un autre point d'actualité.